à Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin et Pascal CV. Jusqu'à 14h, on en jase.
13h11 minutes sur les ondes de Boulevard 101, l'émission d'En Jase, ton résumé d'actualité. Dans le prochain bloc, on parle de politique municipale avec Alicia Despins, notre chroniqueuse politique, et également du conflit en Iran avec Éric Ouellette, notre spécialiste en conflit militaire. À la météo, moins 4 degrés ensoleillés, moins 17 cette nuit. Pauvres producteurs de sirop d'érable sont dans le trouble, pas à peu près que la température. On a fait une entrevue là-dessus dans Marceau le matin. C'est disponible sur le blvd.fm. Moins 5 demain, possibilité d'averse de neige, 0 nuageux pour dimanche. Pascal, il y a un Pascal qui fait parler de lui parce qu'il a confirmé qu'il se présente dans Jean Talon. C'est Pascal Paradis.
Ouais, ben c'est ça la nouvelle. Tu l'as tout dit.
Je l'ai tout dit. Pascal Paradis du PQ dans Jean Talon.
Candidature, oui, qui est renouvelée en fait pour les élections de 2026. D'après moi, il a aimé son mandat et il voudrait se faire réélire. C'est le Parti québécois qui a envoyé ce communiqué-là dans les dernières minutes.
Ça va brasser dans Jean Talon parce que les libéraux sont de retour en force aussi. Ça va être une course électorale très intéressante. On s'en va rejoindre de ce pas Alicia Despins, notre chroniqueuse en politique municipale. Alicia, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Alicia, dis-moi, à quoi ça sert un budget de recherche quand tu es dans l'opposition? Parce que là, présentement, quand j'écoute Stéphane Lachance, notre chef de l'opposition, il me parle d'un ingénieur qu'il a rencontré en quelque part qui dit le tramway, ça n'a pas d'allure. Il me dit, ça n'a pas de sens, il y a un complot, on annule mes rencontres. Avec un million d'impoches, pourrais-tu m'amener de quoi de plus concret qu'un ingénieur rencontrant quelque part dans un endroit mystère à Québec?
Ben c'est ça, on a l'impression qu'avec un million de dollars, mais il semble qu'on pourrait aller loin. Là. Tu sais, toi puis moi, on se part un parti, puis on se staff, là. On est capable de trouver du monde qui ont du bon temps.
Il me semble que je creuserais beaucoup de dossiers à Québec. Là. C'est pas comme s'il en manque.
C'est ça, puis tu sais, d'abord, de bien s'entourer. On parle de ressources humaines, d'abord et avant tout. Chef de cabinet, attaché de presse, des recherchistes, des attachés politiques, etc., qui font ce travail-là, qui vont fouiller, qui vont parler à du monde. Mais ça, tu as assez d'argent avec un million là, pour engager des gens de qualité. Les salaires sont basés sur les échelons des ressources humaines de la ville. C'est quand même assez compétitif. Mais après ça, tu peux aussi aller en contrat, aller embaucher des gens ponctuellement pour des contrats spécifiques. Tu peux réaliser des études, tu peux embaucher des firmes pour faire des sondages, toutes sortes d'affaires. Fait que ces gaffes récentes-là de Stéphane Lachance puis de Respect citoyen, tu nous as parlé, l'ingénieur, tu peux pas arriver devant des journalistes puis dire « j'ai une source qui me dit ça, mais j'ai aucune preuve puis je peux pas vous dire c'est qui ». Puis, je suis pas trop sûre non plus c'est quoi son titre exact ou son rôle. Ça vient décrédibiliser énormément cette prise de parole-là. Fait que là, s'il y avait quelque chose de concret là-dedans, bien, ça part en fumée. L'histoire des rendez-vous annulés, les accusations a priori là, qui étaient peut-être pas fondées envers le cabinet du maire, l'annulation d'une visite aussi, un petit peu plus tôt, on se rappelle, là, une visite d'un centre communautaire parce qu'il n'y avait pas avec le cabinet. Fait que ces gaffes-là, moi, je pense, on commence à voir que ça va y coller à la peau si il commence pas rapidement à se professionnaliser.
C'est drôle de te dire dans ton temps, t'es tellement jeune, mais dans ton temps, toi, à la Ville de Québec, sur quoi on vous visait dans les enquêtes à l'opposition?
Sur quoi on nous visait, tu veux dire, dans les...
On faisait enquête sur quoi, là? Tu te rappelles de quel genre de budget qui a été octroyé pour enquêter sur quelque chose pour être sûr qu'on fait notre travail d'opposition.
Oui, bien, c'est sûr qu'on faisait on le faisait pas mal plus à l'interne. Puis, faut se rappeler qu'avec Québec d'abord, avec deux fois plus d'élus que Respect citoyen, on avait juste la moitié du budget qu'il y avait. Parce que le maire Marchand a augmenté son budget de cabinet, puis le budget de l'opposition, il est basé sur ça. Donc, on n'avait pas nécessairement ces fonds-là pour faire des études énormément. De mémoire, on a fait quelques sondages là, sur les priorités des citoyens, puis des études sur la mobilité, mais rien de... pas des grandes affaires, là. Là, je pense qu'avec un million de dollars, ils ont cette capacité-là là, d'aller embaucher un ingénieur puis de faire l'étude qu'ils voudraient bien faire. Puis il y a le temps, là, parce que ces études-là, ça se fait sur du long terme. Tu ne peux pas pondre ça en dedans d'une semaine. Là, on est fin mars, ça fait 5 mois qu'ils sont élus. je pense qu'au niveau où on est, il aurait dû démontrer un plus grand niveau de rigueur, un plus grand niveau de professionnalisation. Puis moi, ça me questionne à savoir s'ils sont bien entourés. Mm-hmm. Est-ce que ce cabinet-là, il est complet? Puis est-ce que c'est les bonnes personnes qui sont autour de la table qui sont capables de bien les accompagner stratégiquement à dire justement, bon, ben là, en ce moment, il y a un intérêt pour les armes centenaires. Ben on va demander à un spécialiste de se pencher sur la question, s'il en reste un qui ne s'est pas encore exprimé là-dessus. Puis on va sortir quelque chose qui est concret, tangible, sur lequel les journalistes peuvent produire une nouvelle.
J'adore ce que tu amènes comme exemple et tu as tellement raison. Ça pourrait être la même chose pour le déneigement, sur les priorités, etc. Mais je vais m'en tenir à ce commentaire. Quand ton chef de cabinet est Éric Ralph Mercier, t'es dans l'invention d'histoire. OK, j'arrête là. Alicia, on passe à un autre dossier municipal, mais qui est pas mal le même, le tramway. J'ai fait un petit calcul, puis moi, je suis inquiet pour le financement, puis je t'explique pourquoi. Joël Lightman nous a dit, pour les 10 prochaines années au Québec, vous allez avoir 5,5 milliards pour du transport structurant. Fait que là, ça a l'air gros au début, 5,5 milliards. Mais je regarde, puis je me dis, OK, si on fait juste augmenter au niveau du gouvernement fédéral pour atteindre 40 % du 7,6 milliards, et ça, c'est ici, ça reste à 7,6 milliards, la Ville de Québec vient prendre 30 % de ce budget-là. On ne prendra jamais 30 % du budget de la province.
Ben non. Puis ça, la Ville a toujours été claire là-dessus que s'il y avait, si le budget augmentait, la capacité de la Ville était limitée. Donc, elle peut rester à l'intérieur du 10 % de mémoire.
Oui, bien ça, Bruno Marchand, c'est un bon coup qu'il a fait. Il a signé un contrat, puis c'est 750 millions maximum que la Ville investit dans le tramway. Ça, c'est un très bon coup qu'il a fait.
Mais jamais tu peux demander à une municipalité dans un aussi grand projet structurant de venir augmenter son pourcentage là, du budget total. Là. Puis là, je sens que c'est fragile cette semaine. Là. On sent qu'il y a un mouvement pour essayer de faire la lumière finalement sur la situation financière du projet. On vient de parler de l'opposition à l'Hôtel de Ville de Québec, mais pour l'opposition aussi à Ottawa, c'est du bonbon tout ça, là, ben oui. D'avoir ces incertitudes-là. Tu sais, il y a du jus, il y a du potentiel là, de se faire du capital politique, puis sans réponse, sans entente, tu sais, sans réponse là, à la question que tu poses, sans entente signée, concrète, puis là qu'on dit « OK, l'argent elle vient de là, c'est parfait ». On est rassuré sur le fait que c'est pas la Ville de Québec qui va se retrouver devant le choix de un, éponger le 30 % dont tu parlais ou abandonner le projet. Tant qu'on n'aura pas ça, ils peuvent faire plusieurs cycles médiatiques là-dessus puis continuer à miner la crédibilité du projet qui commence enfin, là, tu sais, qu'on ouais. commence à voir avancer là, après toutes ces années. Hein.
Mm-hmm. Alicia, je termine avec toi. Alicia Despins, qui est notre chroniqueuse en politique municipale avec nous une fois par semaine à l'émission d'Angers. Mais là, je veux te parler un peu de politique provinciale parce que ça touche quand même la région de Québec. On a eu une parachutée cette semaine. Elle est partie de Rimouski, puis là, ouf, le parachute a atterri dans la pelleterie. C'est Maïté Blanchette-Vézina. Elle était partie avec son habit de la CAQ. Elle l'a changé en indépendante, puis là, finalement, elle a mis l'habit bleu du Parti conservateur du Québec. Ça fait plein de sens. Mais bref, trêve de plaisanterie. Je lui ai posé la question lors de l'entrevue qu'on a fait avec elle sur la réaction des électeurs à Rimouski parce que on avait beaucoup de textos de gens qui habitent à Rimouski, qui ont de la famille à Rimouski, qui disaient « Hey, le monde est en battance après elle. » Je te fais entendre l'extrait, puis par la suite, on en discute parce qu'il y a une pétition qui circule présentement à Rimouski.
Ben en fait, je veux les rassurer. Là. Je continue de travailler à Rimouski. Puis, tu sais, comme je vous dis, je vais commencer à la rencontre des citoyens de la pelleterie, mais ma priorité demeure d'être députée de Rimouski là, jusqu'à la fin du mandat. D'ailleurs, aujourd'hui, deux pétitions qu'on a déposées, que j'ai déposées en lien avec des dossiers de Rimouski. Demain, ma question va toucher Rimouski encore. Tu sais, j'ai des questions à l'Assemblée nationale. Donc, je continue mon travail de députée de la circonscription de Rimouski. Et j'ai des rencontres avec des partenaires. Je continue à être à Rimouski là, jusqu'à la fin de la session puis la fin du mandat.
Quand on parle de bonbons pour les oppositions, la pétition qui circule présentement à Rimouski, une initiative citoyenne pour faire en sorte que Maïté Blanchette-Vézina soit obligée de démissionner, ça va être un régal pour tous les partis politiques à l'Assemblée nationale.
Ben, c'est parce que là, tu viens cocher plusieurs cases. Il y a la case transfuge, il y a la case d'être parachuté dans une autre circonscription, puis il y a la case aussi de ne pas tenir ses promesses, parce qu'on se rappelle que la députée Blanchette-Vézina a assuré à de très nombreuses reprises qu'elle allait rester indépendante jusqu'à l'élection. Mm-hmm. Puis là, ben promesses non tenues, c'est pas le cas. Les transferts, c'est très compliqué. On sait que les gens, ils votent très peu pour les personnes en tant que telles et pas mal plus pour les partis. Donc, il y a un sentiment quand même de trahison de la part des citoyens de Rimouski. Ça, je pense qu'on peut le comprendre très bien. Mais après ça, ça pose aussi des questions super intéressantes parce que c'est un cas incroyable d'études. Là. Il y a peu ou pas d'exemples récents dans ce genre-là. Les transferts, c'est une chose. Ça, on a vu dans les dernières années. Des ex-députés qui reviennent à la politique, mais dans une circonscription différente. Ça aussi, on a vu ça. On a vu Sébastien Proulx, qui était député de l'ADQ à Trois-Rivières, qui est revenu plusieurs années plus tard dans le cadre d'une partielle dans Jean Talon pour le Parti libéral. Mais là, qu'une députée ne se représente, mais pas à sa propre succession, c'est vraiment intéressant d'un point de vue démocratique puis de légitimité, parce que les électeurs de Rimouski, ils sont en droit actuellement de se demander si Maïté Blanchette-Bézina, elle les représente toujours à l'Assemblée nationale. Ce serait pas fou de penser que ses priorités, que son énergie les prochains mois, ben, vont graduellement se déplacer vers les électeurs de la Peltrie.
Clairement. Donc, cette annonce-là, selon moi, aurait dû se faire en deux temps, c'est-à-dire Maïté Blanchette-Bézina qui transfère chez les conservateurs et après ça, proche de l'élection, qu'on arrive aux candidatures, qu'on annonce qu'elle est dans la Peltrie. Alors, ça va être très intéressant à suivre dans les prochaines semaines. Alicia Despins, je te souhaite un excellent week-end et on se reparle la semaine prochaine. Il y a Conseil de ville mardi, donc on va se parler mercredi.
Oui.
Excellent. Bye. Salut, Alicia Despins, chroniqueuse en politique municipale, ex-conseillère municipale pour Vanier-du-Berger. Toujours intéressant d'avoir son point de vue.
Nouvelle aussi à l'international.
Oui.
Jeff, c'est notre collaborateur régulier qu'on va accueillir dans quelques instants, mais il faut savoir que Donald Trump, lui, raconte des choses et d'autres.
Oui.
On ne sait pas c'est quoi Donald le point. Trump. On sait pas c'est quoi le point au Moyen-Orient en ce moment. Mais surtout, dans les dernières heures, ce qu'on a appris, c'est que l'Iran défie Trump et exhorte les civils du Moyen-Orient à s'éloigner des Américains. Ça veut dire que tu es un Américain, tu es en Iran, peu importe. Ben, tu es maintenant un peu comme ciblé par les forces iraniennes, quel que soit ton statut, parce qu'on accuse les Américains et les Israéliens de servir comme des Iraniens comme boucliers humains.
Ouais. Éric Ouellet, notre spécialiste en conflit militaire, est avec nous au bout du fil. Éric, quoi penser de tout ce qui s'est passé cette semaine avec un Donald Trump qui est sorti lundi en disant « les négociations vont bien », qui est revenu en disant « finalement, je vais bombarder puis anéantir l'Iran ». Puis là, hier, qui a dit « bon, bombarder puis les sites énergétiques de l'Iran, ça va aller au 6 avril ». On est où dans tout ce chaos à la Donald Trump?
Oui, bonjour. Je pense qu'il y a un degré de communication entre l'Iran et les États-Unis. Il y a un degré de négociation, mais je pense qu'on est encore loin. Monsieur Trump souvent se dépêche à sauter sur des avancées qui, en fait, disparaissent quelques jours après. Donc, il faudrait que je sois un petit peu plus patient. Mais on peut penser qu'il y a quand même un début de négociation, ce qui est une bonne chose.
Vous croyez ça? Nous, on a l'impression qu'on se tolère comme sceptique dans tout ça.
Ben écoutez, on parle de négociation entre des ennemis, là, pas entre des amis. Et mais l'Iran a donné quelques signes. Par exemple, M. Trump avait demandé de laisser passer 10 pétroliers comme un geste de bonne volonté. Et l'Iran a laissé passer quelques pétroliers bien choisis, là, il faut être clair, mais il en a laissé que certains passer. Donc, ça semble que les communications entre les deux sont encore ouvertes. On présuppose ces négociations avec un intermédiaire. Ça pourrait être le Pakistan ou la Turquie en particulier. Mais c'est mieux que c'était... C'est mieux cette semaine que c'était la semaine dernière, disons.
J'ai entendu des rumeurs comme quoi, pour laisser passer certains pétroliers, c'est 2 à 3 millions de dollars, puis ce serait un peu un point qui fait partie des ententes. Mais Donald Trump l'a pas évoqué. Est-ce que c'est gênant pour les États-Unis, ce genre d'entente-là qui vont avec une enveloppe monétaire?
Oui, ben en fait, c'est du chantage, hein, écoutez, hein, y a rien d'autre que ça. Mais oui, il y a un navire qui a été chargé 2 millions de dollars américains pour traverser, je pense, un navire de la Thaïlande, si je ne m'abuse. Mais pour les États-Unis, oui, hein, bien entendu, c'est un petit peu humiliant, mais d'autre part, je pense qu'ils ont mal planifié leurs affaires, là, parce que l'Iran fermer le 2-3 Dormos, c'était extrêmement prévisible et ils ont fait aucun plan, c'était gars, rien, pas de plan sérieux. Donc, Monsieur Trump est humilié, c'est un petit peu de sa faute.
Éric, tu es professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des forces armées canadiennes, au Collège militaire royal du Canada. Tu es un stratège militaire. Pendant que les États-Unis négocient, selon Donald Trump, pendant qu'on tente justement de garder un climat un petit peu plus ouvert à la discussion, l'allié des États-Unis, Israël, lui, continue de bombarder l'Iran. Les gardiens de la Révolution continuent d'attaquer Israël. Ça aide en rien à régler ce conflit-là?
Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut se rappeler que la relation entre adversaires Israël-Iran et celle entre États-Unis et Iran n'est pas tout à fait la même. Et je pense que malgré la situation complexe, c'est peut-être pas un empêchement complet aux négociations entre les Américains et l'Iran. Les négociations avec Israël vont être beaucoup plus tard. Israël est maintenant complètement engagé contre le Hezbollah au Liban, l'allié de l'Iran. Donc, il y a deux dynamiques qui sont différentes ici.
On peut s'attendre à d'autres frappes violentes, c'est ce qu'on comprend, parce que là, les Américains sont vus comme étant des ennemis sur le territoire qui utilisent les Iraniens comme boucliers humains. Hein, du moins, c'est ce que les communications iraniennes nous disent. Ça risque de brasser encore?
Ah oui, oui, non, ça c'est... écoutez, dans toute négociation, pour un cessez-le-feu, les combats continuent. Il y a d'ailleurs des films célèbres là, qui ont été faits, un qui s'appelait « Hamburger Hill ». Pendant la guerre au Vietnam, où on négociait le traité de paix, puis il y avait des combats absolument furieux. Donc, moi, il n'y a rien de nouveau dans tout ça.
Éric, en terminant, je vois présentement, il y avait Marco Rubio qui a donné un scrum aux journalistes et qui dit la fin des opérations se fera d'ici quelques semaines. Il me semble que j'entends ça depuis le 28 février. Tu te positionnes où par rapport à ça?
Ouais, ben en fait, c'est... quelques semaines, hein, ça peut vouloir dire 3 ou ça peut vouloir 10, hein, c'est assez ouvert comme définition. D'une part, d'autre part, ben comme tout bon politicien, ils veulent pas se mettre dans se peindre dans le coin de la chambre là, donc ils se gardent la marge de manœuvre pour ne pas définir les choses de façon précise. Mais je pense que c'est certainement dans l'intérêt des Américains, que le conflit ne continue pas trop longtemps. Ça, je pense, c'est clair.
Éric Ouellette, spécialiste en conflit militaire pour nous. Merci beaucoup de ta présence à l'émission Nangeuse. Et c'est clair qu'on se reparle la semaine prochaine parce que ce conflit-là va continuer.
Oui, c'est toujours un plaisir de vous parler.
Merci. Éric Ouellette, professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des forces armées canadiennes et au Collège militaire royal Canada. M'a surpris en me disant qu'il pense que Donald Trump négocie vraiment.
Moi aussi, honnêtement, de ce qu'on voit, ça a plus l'air de Donald Trump qui impose quelque chose, ouais, puis finalement, ça se rend pas. Puis, parce que tu te rappelles là, tout ce qu'il avait demandé, ouais, à l'Iran versus 3 choses que l'Iran récoltait. Mm-hmm. C'est sûr que eux, le positionnement légo, ils vont refuser. Là,
mais tu sais que tout est dans tout. Hein? Je pense que le négociateur mystère de Donald Trump, c'est le même ingénieur mystère que pour Stéphane Lachance.
En tout cas, ça me surprendrait. Mais c'est pas drôle. J'ai hâte que ça cesse pour
oui,
l'économie,
vraiment,
pour un peu tout le monde là-dedans. Hein, parce que plus ça dure, plus il y a de nouveaux joueurs et plus tout ce qui est fragment de la géopolitique, mm-hmm, aussi s'intensifie. Puis pendant ce temps-là, en Ukraine puis en Russie, là, ça brasse, ouais, mais les yeux sont pas tournés.
Non,
vers là,
du tout. C'est un détournement et Vladimir Poutine peut faire ce qu'il veut. Manchette dans un instant à Boulevard 102 ainsi que Gabriel Giguère. Pascal, une faible progression de 0,7% par rapport au PIB en économie au Québec. Ça va vraiment pas bien. Pourtant, on avait élu le parti de l'économie avec la CAQ. On en parle avec Gabriel Giguère dans un instant.